donc que nous passions à la troisième présentation donc sur l'évaluation économique des SFN, donc présentée par Cécile Hériveau et Philippe Lecointe. Voilà. Donc, on voit l'écran de Cécile, mais on ne vous entend pas, par contre.
Oui, bonjour. Ça y est, j'ai retrouvé les boutons. Ils avaient disparu. Alors, vous aviez la présentation, mais pas le reste. C'était l'inverse des autres. Je vais essayer de mettre en plein écran. Vous allez me dire si ça fonctionne.
Oui, ça y est.
Super. Donc, bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation complémentaire de celle qu'on a eue ce matin. Cette fois-ci sur les préférences de la population pour la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. Donc, c'est un travail que nous avons mené dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet NAIAD. Philippe et moi sommes tous les deux économistes de l'environnement dans une unité de recherche au BRGM de Montpellier. Alors, on s'est intéressé à l'analyse des préférences de la population pour deux grands types de SFN qui visent à réduire le risque d'inondation. D'un côté, on a considéré la préservation des espaces naturels et agricoles, donc qui favorise l'infiltration des eaux, en considérant que dans un contexte de croissance démographique, en fait, l'introduction de cette mesure va consister à limiter l'étalement urbain, soit par la densification de nouveaux quartiers en construction, soit par, en complément de la densification, certaines fois, de quartiers qui sont existants par des opérations de renouvellement urbain. Le deuxième type de SFN qu'on a considéré, c'est l'introduction de la nature en ville. Donc là, on va retrouver les différents types de solutions qui ont été présentées depuis le début de ce séminaire. Ces solutions, elles vont aussi viser à favoriser la rétention et l'infiltration des eaux en désimperméabilisant des espaces publics, en introduisant des parkings drainants végétalisés, des fossés drainants le long des axes routiers et des bassins de rétention multifonctionnels. Alors, ce qu'on voit avec ces deux types de SFN, si on caricature un petit peu, c'est qu'en fait, elles vont correspondre à deux approches un peu différentes de la ville durable. D'un côté, plutôt une conception de ville compacte, où on va éviter l'étalement urbain, et de l'autre côté, plutôt une conception de la ville verte. Ces SFN, elles peuvent tout à fait être complémentaires, mais on se rend bien compte que certaines fois, elles peuvent avoir des effets opposés. Si on pousse jusqu'au bout la ville compacte, on se rend bien compte qu'on va être en difficulté pour introduire de la nature en ville dans une ville qui serait trop dense. Donc, on s'est intéressé par rapport à ces questions de développement urbain et d'introduction, d'intégration des SFN dans ce développement urbain. On s'est intéressé aux préférences de la population pour ces deux types de SFN. Et nos questions de recherche sont les suivantes. Donc, on s'est posé la question de, finalement, on parle toujours des co-bénéfices de ces solutions fondées sur la nature. Nous, on s'est intéressé à la perception de la population de ces principaux bénéfices qui sont associés au SFN, mais aussi la perception des effets négatifs qui peuvent être associés à ces SFN. On s'est intéressé à la valeur économique accordée par la population au SFN par rapport à des solutions plus traditionnelles, des solutions dites grises, qui permettraient un même niveau de gestion du risque inondation. Ensuite, on s'est demandé si les préférences allaient être hétérogènes au sein de la population, et si oui, quels pouvaient être les facteurs explicatifs de cette hétérogénéité, de ces différences de préférences. Pour ça, on a mis en place une enquête donc de type expérimentation des choix, qui repose sur un questionnaire. Alors, ce questionnaire était structuré autour de quatre sections, quatre principales sections. La première, elle introduisait le risque inondation et elle s'intéressait à la perception de ce risque par les répondants et à l'importance accordée aux enjeux environnementaux. La deuxième section, elle s'intéressait plus cette fois-ci à la perception des solutions fondées sur la nature, où on décrivait les solutions et ensuite on demandait aux répondants quels étaient les bénéfices perçus de ces solutions et les effets négatifs. Une troisième section, là, plus sur le positionnement des répondants sur le choix de stratégie de gestion du risque inondation dans le futur. Ce qu'on appelait stratégie de gestion du risque, en fait, on proposait des combinaisons de solutions, à la fois des solutions grises et des solutions fondées sur la nature. Et les répondants avaient à se positionner sur le choix de ces combinaisons de solutions. Et une dernière partie plus classique sur les caractéristiques socio-économiques des répondants. Le côté un peu innovant de cette enquête par rapport à d'autres qui avaient pu être réalisées dans le passé, c'est selon nous l'intégration de la prise en compte des effets négatifs, de la perception des effets négatifs en plus des bénéfices. Et c'est aussi le fait de combiner à la fois des sections qui visent à produire des indicateurs plus socioculturels dans l'évaluation, avec une section qui va, elle, produire des indicateurs des valeurs économiques, donc une évaluation monétaire de la valeur associée à ces solutions. C'est un questionnaire qui a été construit en mobilisant les acteurs locaux à l'échelle d'un bassin versant par la réalisation d'ateliers et la réalisation d'entretiens. Ça a été aussi testé avant l'administration auprès d'habitants du territoire. Et c'est un questionnaire qui a ensuite été diffusé en ligne. Et ce qui est important, c'est qu'on l'a diffusé à l'échelle d'un bassin versant. On parlait tout à l'heure des différentes échelles à laquelle pouvaient être définies ou perçues les solutions fondées sur la nature. Nous, on a fait le choix de se positionner à l'échelle du bassin versant. En considérant que finalement les bénéfices et les effets négatifs de ces solutions qui étaient proposées ici étaient ressentis à l'échelle de l'ensemble d'un bassin versant et non pas uniquement à l'échelle de la ville. Donc le bassin d'études, c'est le bassin versant du Lez, donc c'est le bassin qui alimente en eau le fleuve Lez, qui prend sa source dans l'arrière-pays montpelliérain et qui se jette dans la Méditerranée. C'est un bassin versant qui est artificialisé sur 20% de sa superficie et qui regroupe 460 000 habitants. Alors, il se caractérise par un climat méditerranéen avec des épisodes de pluie qui peuvent être très intenses à l'automne et cumulés à des phénomènes de ruissellement urbain, ça peut conduire à des inondations qui sont très dommageables. Donc ici, on a remis les chiffres pour 2014, par exemple, on a enregistré 65 millions d'euros de dommages sur les biens assurés, dont 78% qui étaient liés au ruissellement urbain. C'est un bassin qui a une forte attractivité du fait de la présence de la métropole de Montpellier, qui a une très forte croissance démographique. Et cette forte attractivité, elle a conduit dans le passé à un étalement urbain assez important avec 3000 hectares urbanisés entre 1990 et 2012. Un autre point qui nous importait dans ce travail, c'est qu'on est sur un bassin versant qui a un gradient urbain-rural marqué. Alors, ce qu'on appelle gradient urbain-rural ici, ça va être vraiment les différences de caractéristiques entre les caractéristiques du centre-ville et les caractéristiques des communes qui sont plus éloignées du centre de Montpellier. Donc, bien sûr, ça se caractérise en termes de différence de densité de population, mais vous le voyez aussi sur les petits graphiques là, que j'ai mis à droite. En fait, on a localisé les données INSEE, on a représenté les données INSEE à l'échelle ILO, IRIS, en fonction de la distance au centre-ville de Montpellier. Donc, ça vous illustre en fait le gradient qui est assez marqué, enfin qui est bien marqué sur ce bassin-là, sur le fait qu'on a une diminution de la densité de logement. On a une augmentation de la part des maisons dans les quartiers et une augmentation de la part des ménages qui disposent d'une voiture. Plus on s'éloigne du centre-ville de Montpellier. C'était important pour nous parce que ça faisait partie de nos hypothèses à tester, à savoir est-ce qu'on pouvait avoir des différences de préférence en fonction de la localisation des répondants le long de ce gradient urbain-rural. Donc, on a administré le questionnaire en ligne et ça nous a permis de collecter 400 questionnaires qui ont pu, donc complets, qui ont pu ensuite être analysés d'un point de vue économétrique et qui sont répartis sur l'ensemble du bassin versant. Alors, en premier type de résultats obtenus, donc c'est les résultats de la première section sur les bénéfices et les effets négatifs perçus. Ce que je dois rajouter ici, que je ne vous ai pas précisé avant, c'est que pour ces deux types de solutions, on a décliné deux niveaux d'ambition à chaque fois. Donc, un niveau 1 d'ambition plutôt modéré de mise en œuvre et un niveau 2 d'ambition très élevé. Par exemple, pour la préservation des espaces, des écosystèmes périurbains, on a considéré en niveau 1 qu'on avait une densification de tous les nouveaux quartiers en construction, alors qu'en niveau 2, on a considéré qu'on avait la densification des nouveaux quartiers en construction et du renouvellement urbain sur certains quartiers existants, qui permettait d'artificialiser vraiment un minimum de superficie sur le bassin. Pareil pour la nature en ville, on a considéré par exemple pour les fossés drainants le long des routes, On a considéré des fossés drainants dans le niveau 1 de 50 cm de large, le long des axes routiers, alors que pour le niveau 2, on est sur des fossés drainants de 2 mètres de large, le long des axes routiers, de certains axes routiers, ce qui implique le passage à sens unique de certains axes. Donc, on voit que les contraintes sont... L'ambition est plus forte, mais les contraintes sur le développement urbain peuvent aussi être plus fortes. Alors, si on revient sur les bénéfices, ce qu'on observe, c'est qu'on a une large majorité des répondants qui associent des bénéfices significatifs aux SFN qui sont proposés, quel que soit leur type et leur niveau. On s'est basé sur, pour définir classer ces bénéfices sur la classification des services écosystémiques. Ce qui ressort, c'est qu'à chaque fois, le bénéfice principal cité par les répondants, c'est bien la réduction du risque inondation. Les SFN étaient aussi présentés dans cette optique-là, donc voilà, c'est pas surprenant. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a une part importante des co-bénéfices, de co-bénéfices qui sont également cités par les répondants. Ensuite, on avait une partie aussi sur les effets négatifs perçus comme significatifs. Donc là, on observe aussi qu'on a une part non négligeable des répondants qui associent des effets significatifs aux solutions. Ce qu'on observe, c'est que la proportion est plus importante pour les niveaux de mise en œuvre les plus ambitieux des solutions, ce qui est cohérent aussi hein, avec nos hypothèses de départ. Et on a, alors je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans le détail, mais on a toute une diversité d'effets négatifs qui sont perçus pour ces mesures. Qui dépassent bien, qui vont bien au-delà de ce qu'on peut avoir en tête sur les 10 services qui peuvent être liés, par exemple, aux moustiques ou aux allergènes. Là, on touche aussi des effets négatifs liés aux contraintes urbaines que ça va poser. Donc, par exemple, les problèmes de mobilité, de circulation et de stationnement du fait de la désimperméabilisation de certains espaces. La qualité de vie en lien avec des villes plus compactes, la perte du patrimoine éventuel si on fait du renouvellement urbain, etc. Le deuxième type de résultat obtenu, c'est là, on va toucher aux valeurs économiques qui sont associées à ces solutions fondées sur la nature. On les exprime sous la forme d'un consentement à payer, donc le CAP, en euros par ménage et par an. Et cette valeur, elle reflète le co-bénéfice net associé par les ménages aux solutions proposées. Donc, co-bénéfice net, c'est-à-dire qu'on capte là les co-bénéfices auxquels on enlève, en fait, finalement, il y a aussi les effets négatifs qui sont pris en compte. Mais dans notre cadre d'analyse, on n'a pas les bénéfices liés à la réduction du risque inondation. C'est-à-dire qu'on capte ici la valeur supplémentaire accordée par la population pour ces solutions-là, en comparaison de solutions grises qui permettraient le même niveau de réduction du risque. On a utilisé deux types de modèles pour évaluer ces valeurs économiques. Le premier modèle, il nous donne des valeurs moyennes pour l'ensemble de l'échantillon, donc les 400 répondants. Et il nous montre qu'en moyenne, les ménages attachent une valeur positive aux co-bénéfices nets générés par ces différentes solutions, estimés entre 140 et 180 euros par ménage et par an, selon le niveau d'ambition de la solution. On voit qu'il y a des niveaux de préférence entre les deux types de solutions qui sont plutôt équivalents et des valeurs plus élevées pour les niveaux les plus ambitieux. Le deuxième modèle, lui, il va plutôt chercher à regarder s'il y a de l'hétérogénéité, des différences dans les valeurs, dans les profils de valeurs qui sont accordés par les répondants. Et ce modèle, il nous a permis de mettre en évidence des valeurs assez hétérogène lorsqu'on le définit avec cinq catégories de population. Il nous donne voilà, des profils de préférence assez différents. Par exemple, il nous informe qu'on a près de la moitié de la population qui ne va pas accorder de valeur à passer à un niveau d'ambition plus élevé. Donc, le niveau d'ambition modéré, ils accordent une valeur, mais passer au-delà, le delta, en fait, la valeur est nulle, négative ou très faible. Autre information, par exemple, on va avoir certaines classes qui vont clairement exprimer une préférence pour introduire de la nature en ville. C'est à peu près un tiers des répondants. D'autres qui expriment une nette préférence pour la préservation et d'autres enfin qui ont les mêmes préférences pour les deux types de solutions. Donc, ça nous dit que ces préférences, voilà, elles sont en moyenne positives, mais attention à la moyenne, elles sont très hétérogènes à l'échelle du bassin versant. Ensuite, du coup, on s'est intéressé aux facteurs qui peuvent influencer cette hétérogénéité. Et le modèle nous a permis de montrer qu'il y avait une influence marquée du revenu, de la localisation sur le gradient urbain-rural et aussi sur l'importance accordée aux services écosystémiques par le répondant, au type de service. Donc, à droite, je vous ai pris l'exemple de l'influence de la localisation le long d'un gradient urbain-rural sur l'appartenance aux classes. Et on voit qu'on a, donc l'abscisse, c'est la distance au centre-ville de Montpellier, et en ordonnée, on a la probabilité d'appartenir aux différentes classes. Donc, juste pour illustrer, ici, on voit bien que, par exemple, la classe 5, le fait d'habiter à proximité du centre-ville augmente beaucoup la probabilité d'appartenir à cette classe 5, qui est une classe favorable à la mise en œuvre de solutions ambitieuses. Et si on regarde, si on croise avec les autres données, on voit aussi que ce sont des répondants qui accordent une importance plus importante que les autres, plus forte que les autres à l'amélioration de la qualité de l'air et à la réduction des îlots de chaleur urbains. Donc plutôt un profil urbain qui est cohérent avec la distance, la proximité au centre-ville. À l'inverse, on va avoir plutôt un profil de répondant qui sera plus distant du centre-ville. Qui lui va exprimer davantage d'effets négatifs liés aux problèmes de mobilité, d'accès au centre si les axes routiers sont modifiés, par exemple. Donc pour nous, le message important, c'est ici de dire que la prise en compte de ces préférences hétérogènes, elle est importante pour anticiper d'éventuelles oppositions qu'il pourrait y avoir pour la mise en place de SFN sur un territoire et réfléchir dès la phase de conception de SFN à des mécanismes qui pourraient compenser ces oppositions qui révèlent finalement des inégalités environnementales qui peuvent se manifester à l'échelle d'un bassin versant. Enfin, plus globalement, ces résultats-là, ils peuvent être utilisés pour estimer les co-bénéfices attendus des SFN. Donc, en première estimation assez grossière, par exemple, si on utilise la valeur de 180 euros par ménage et par an et qu'on la multiplie par le nombre de ménages du bassin versant pendant 10 ans, ça nous donne un ordre de grandeur des co-bénéfices nets attendus de ce type de solution, estimé à 363 millions d'euros. Et ce type de chiffrage peut ensuite être comparé au coût de mise en œuvre des actions, qui là, dans ce cadre-là, avait été estimé à 148 millions d'euros. Et montre que dans certaines situations, donc, comme ici, les valeurs économiques moyennes qui captent l'ensemble des bénéfices permettent de justifier des programmes d'investissement dans des SFN ambitieuses si on utilise un critère économique. Là, je laisse la main à Philippe qui va mettre en perspective ces résultats dans le cadre du projet NAIAD.
Merci Cécile. Alors, le travail qui a été présenté par Cécile, en fait, il s'inscrit dans un cadre plus global de l'évaluation économique des solutions fondées sur la nature du projet NAIAD. Donc, le projet NAIAD, c'est un projet financé par un projet H2020 mis en œuvre dans 9 sites d'études dans 8 pays qui s'intéressent à l'évaluation des solutions fondées sur la nature pour les risques liés à l'eau. En France, il y a 2 sites. Donc le site du Lez dont Cécile a parlé et le site de la Brague dans les Alpes-Maritimes pour lesquels des collègues de l'INRAE de Grenoble, Jean-Marc Tacnet et Guillaume Piton ont travaillé et l'université de Nice, et il y a eu une grosse coopération avec la Caisse centrale de réassurance sur ces sites en France. Alors le cadre méthodologique de l'évaluation économique, finalement c'est une analyse coût-bénéfice qui va chercher à intégrer l'ensemble des coûts et des multiples bénéfices générés par les solutions fondées sur la nature. Donc en fait, comme vous le voyez là sur ce schéma, on va essayer de comparer 2 scénarios, 2 visions, une vision de référence et une vision alternative. Et donc pour chacune de ces visions, on va avoir des coûts et des bénéfices différents. Dans les différentes composantes de cette analyse, donc la vision de référence, c'est une vision soit de statu quo, soit une vision avec solution grise en fonction des cas d'étude. Et on va avoir différentes composantes dans cette analyse coût-bénéfice. Comme s'il s'agit de SFN pour les risques liés à l'eau, on va d'abord s'intéresser aux dommages dans la vision de référence et aux dommages dans la vision alternative. Et donc, le bénéfice principal va être cette réduction des dommages qu'on va pouvoir observer entre les deux types de scénarios. Ensuite, on va s'intéresser à l'évaluation des co-bénéfices, comme Cécile l'a présenté, avec différentes méthodes qui ont été mobilisées en fonction des sites, soit des méthodes d'évaluation directe, soit des méthodes de préférence déclarée du type expérience de choix, comme a présenté Cécile, ou évaluation contingente, qui sont des méthodes un peu similaires. On a estimé également les coûts d'investissement et d'exploitation dans les différentes situations. Et enfin, on s'est intéressé à ce qu'on appelle, nous, le coût d'opportunité en économie. Donc, le coût d'opportunité, globalement, la définition, c'est le bénéfice auquel un agent économique renonce lorsqu'il prend une décision. Et donc, dans notre cas, les SFN occupant des surfaces plus importantes en termes de foncier que les solutions grises, le foncier utilisé ne peut donc pas être utilisé pour d'autres usages comme la production de logements, par exemple. Et donc, voilà, diapo suivante. Donc, cette méthodologie a été développée de façon complète sur trois cas d'études, en fait. Donc, à l'échelle d'un quartier, le quartier de Spangen à Rotterdam, là où qui s'intéresse au mélange de stockage en aquifère et d'infrastructures vertes dans ce quartier. L'exemple de la Brague, qui est à l'échelle d'un bassin versant, où les solutions grises sont des bassins de rétention en tête de bassin, grosso modo, et les SFN, essentiellement de redonner l'espace de bon fonctionnement au cours d'eau. Et le cas du Lez, qui vous a été présenté. Diapo suivante. Donc, les quelques grands résultats qui ressortent, hein, j'ai eu très peu de temps pour vous présenter. Ce qu'on a pu mettre en évidence à travers ces cas, c'est que le coût des solutions grises est globalement supérieur au coût des solutions fondées sur la nature pour le même niveau de protection. Par contre, si on intègre les coûts d'opportunité liés au foncier, cet avantage n'est pas forcément toujours réalisé. On a également comparé les rapports efficacité-coût, c'est-à-dire efficacité en termes de réduction des inondations par rapport à leur coût pour des solutions individuelles, non pas pour des scénarios, et on a vu une très forte hétérogénéité de ce rapport efficacité-coût. Ce qu'on peut voir, malgré l'avantage des SFN, c'est que, en termes de mis en évidence au premier point, c'est que ces bénéfices de réduction du risque ne compensent pas à eux seuls les coûts d'investissement et de maintenance. Et donc, qu'il est très important d'intégrer l'écho des bénéfices dans cette évaluation économique, car il représente la part très majoritaire, finalement, de la valeur de ces solutions fondées sur la nature. Et puis, globalement, si on regarde les résultats de ces analyses coût-bénéfice, disons, le rapport à coût-bénéfice est variable en fonction des sites et n'est pas toujours positif. Pour les scénarios avec solutions fondées sur la nature, mais il ne l'est pas non plus dans le cas, ou encore moins souvent dans le cas des solutions grises. Voilà, juste pour terminer, les dernières diapos, il y a deux publications qui sont en cours de soumission qui permettent de reprendre ces éléments. Merci.
Merci à tous deux, Cécile et Philippe. Donc, les précisions, là, répondent à une question, hein, puisqu'on a eu une question pour savoir si les résultats de vos travaux étaient disponibles. Donc, voilà. Alors, comme il y a eu pas mal de questions, je vais en prendre qu'une seule, sachant que Denis doit animer le débat à la fin et donc reviendra sur les questions qui ont été posées dans le chat durant vos présentations. Donc, je vais prendre juste la première. Hein, alors, c'est celle de Franck Tailladier qui demande si c'est pareil pour les riverains de donner leur avis sur des projets fictifs un peu abstraits, par exemple sur l'augmentation de la nature en ville, et donner son avis sur un projet réel qui se ferait.
Alors, effectivement, on est sur des scénarios, donc on n'était pas ancré vraiment sur un projet ponctuel réel qui va se mettre en place à l'échelle d'un quartier. Par contre, on a essayé d'imager et d'expliquer, de décrire assez précisément les actions qui seraient mises en œuvre et les implications que ça pouvait avoir sur le développement urbain. Donc, bien sûr, ici, on n'a pas eu le temps, j'ai déjà dépassé le temps, mais on n'a pas eu le temps de tout décrire. Mais on montrait des photos avant, après mise en œuvre des solutions proposées. Systématiquement pour chacune des solutions, en expliquant bien ce que ça allait impliquer en termes de modification, par exemple, de circulation, en termes de diminution du nombre de parkings qui allaient être disponibles en centre-ville. Voilà, on a essayé de l'imager au maximum, mais c'est sûr que ça reste quand même des scénarios qui sont... on va dire des scénarios de référence proposés à l'échelle du bassin versant qui ne sont pas à chaque fois déclinés à l'échelle d'un quartier bien précis, quoi. Philippe, tu peux compléter si.
C'est bon, non, pas de.
Bien, merci pour ces précisions. Donc, voilà, on reviendra certainement sur les questions qui ont été posées à la fin de la quatrième présentation là, lors du débat. Donc là, maintenant.